Quelle serait pour vous votre crainte ce matin? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Qu'est-ce qui vous fait peur? Que personne ne réponde, que je commence à chanter. Hein, parce que ça va mal se passer. De ne pas rester fidèle jusqu'au bout. Ça, c'est une bonne réponse, Xav. De quoi avez-vous peur dans votre vie? Que craignez-vous le plus? Alors, si vous êtes un bon Gaulois, vous devriez répondre ça. Que le ciel vous tombe sur la tête, n'est-ce pas? Mais plus sérieusement, on l'a entendu dans nos prières tout à l'heure, on vit dans un monde d'instabilité. Il y a encore de vivre des événements politiques qui nous mettent dans un espèce de flou. La crise partout, politique, démocratique, économique. Peut-être que cette crainte est plus existentielle ce matin, la crainte de manquer matériellement, émotionnellement, la perte de l'un proche, physiquement, la souffrance physique. Peut-être que c'est ça votre pire cauchemar ce matin. Heureusement, il y a Noël et tout va aller mieux. Je le dis avec de l'ironie parce qu'il me semble que c'est un peu comme ça qu'on le vit dans notre société, une espèce de voilà, parenthèse, enchantée, et c'est la manière un peu de notre monde sécularisé, hein, de passer sur ces choses difficiles à affronter. On ouvre des parenthèses, les Jeux Olympiques, l'inauguration de Notre-Dame, Noël, tout ça sont des choses qui voilà, nous mettent un peu de baume au cœur et nous font oublier que le monde n'est pas aussi noir qu'il l'est. Mais heureusement, il y a Noël et tout va mieux. Et là, je le dis avec l'approche biblique, la profondeur de ce que nous avons déjà chanté ce matin, de ce que nous avons déjà commencé à méditer, et on va continuer de le faire à partir de la fin du livre de l'Exode. C'est un livre que nous méditons depuis maintenant le début du mois de septembre, et on arrive à la fin. Et rappelez-vous ce que nous avons justement mis en avant tout au long de cette série. Nous sommes allés à la rencontre du Dieu qui veut demeurer avec nous. Ou plutôt, si vous avez bien suivi, c'est le contraire. C'est le Dieu qui veut demeurer avec nous, qui vient à notre rencontre. C'est lui qui veut, justement, être dans notre vie. Et il veut encore l'être ce matin. Et ce matin, c'est donc un peu le feu d'artifice final. Nous allons découvrir dans les derniers chapitres de l'Exode que la plus grande chose que nous aurions à craindre, c'est justement que ce projet n'ait pas lieu, que Dieu n'ait pas décidé de venir demeurer au milieu de nous. Mais avant d'aller dans la parole de Dieu, comme c'est un peu notre dernière prédication sur le livre de l'Exode et que je suis conscient que tout le monde n'a pas suivi depuis le début, je vous propose une petite infographie en quelques chiffres de ce que nous avons parcouru depuis ces derniers mois. Nous en sommes arrivés au chapitre 32, si vous vous souvenez bien, il y a deux semaines, et le fameux épisode du veau d'or. 430, comme le nombre d'années d'esclavage du peuple hébreu en Égypte, jusqu'à ce que Dieu intervienne pour le libérer, et on se souvient de ce bras de fer, justement, avec Pharaon. 10 comme 10 plaies. Les 10 plaies, justement, qui ont précédé la sortie d'Égypte, qui ont confronté Dieu et Pharaon jusqu'à ce qu'il accepte de laisser partir son peuple. 1. Une. Comme une nuit. C'est en une nuit, la Pâque, qui sont sortis d'Égypte, c'est en une nuit que ce même peuple a traversé un bras de mer parce que Dieu l'a ouverte devant lui. 10 comme 10 paroles, 10 commandements que Dieu a prononcés pour faire alliance avec son peuple sur le mont Sinaï, peuple appelé désormais à être un peuple saint devant les nations pour qu'en les voyant, les autres nations, elles aussi, et envie que Dieu demeure parmi elles. Et on aimerait voir 430, ce serait plus flatteur pour le peuple de Dieu, mais c'est 40. Comme le nombre de jours qu'il a suffi avant que le peuple de Dieu s'éloigne de ses commandements, se fabriquant un veau d'or pour décider d'adorer Dieu comme eux le décidaient justement. C'est ce passage avec lequel on est resté la semaine dernière, et en ce temps d'attente, on a commencé à réfléchir à cette attente de Noël. C'est un premier point d'attention pour nous. C'est parce que le peuple n'a pas attendu que Moïse redescende de la montagne qu'il a décidé par lui-même de définir comment on adorait Dieu. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu s'est fabriqué une image de Dieu, le fameux veau d'or. L'attente, et ces chiffres-là nous montrent cette attente, hein, sont pour beaucoup des durées qui sont devant nous, fait partie de la pédagogie de Dieu. C'est une des grandes leçons de ces chiffres. La révélation de Dieu n'est pas instantanée. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas à notre image. Il n'est pas un produit marketing. Il n'est pas celui qui accomplit les désirs de nos cœurs. Il n'est pas celui qui fait exactement les choses comme on l'imaginerait, selon nos pulsions. Et cette période de Noël est à nouveau l'occasion de redécouvrir le Dieu qui est « Je suis celui qui suis ». C'est une des paroles que nous avons méditées pendant ce parcours du livre de l'Exode. Et pour terminer ce livre, je vous propose de réfléchir à cette exhortation, désirer ardemment la présence de Dieu dans notre vie. C'est aussi cette période d'attente, aussi cet objectif de nous poser pour réfléchir et désirer ardemment la présence de Dieu dans notre vie. On est donc resté sur l'épisode du veau d'or il y a 2 semaines, et je crois que beaucoup ont été marqués par ce passage qui nous parle de notre idolâtrie profonde, mais aussi de la sainteté de Dieu. Le constat d'Exode 32, c'était le dernier chapitre médité, c'est qu'il y a incompatibilité entre le Dieu saint qui ne tolère aucun rival et notre cœur sans cesse porté à chercher ailleurs sa satisfaction. Mais probablement ce qui peut-être a cheminé dans vos têtes depuis ces dernières semaines, si vous vous rappelez ce passage d'Exode 32, c'est ce verset qui nous met mal à l'aise. À cause de l'idolâtrie, environ 3000 hommes parmi le peuple en cette journée périrent. 3000 hommes qui ont été tués par leurs propres compatriotes. Ça nous met mal à l'aise, n'est-ce pas ? Ça nous effraie. Est-ce là vraiment le Dieu qui veut demeurer au milieu de nous ? On en a tout d'un coup un peu moins envie. Pourtant, la parole la plus effrayante de cet épisode, ça n'est pas Exode 32, verset 28. La parole la plus effrayante, il me semble, nous la trouvons dans le chapitre suivant. Et je vous propose de lire avec moi la suite, Exode 32. Et nous lisons ce matin, en plusieurs parties, le chapitre 33. Exode 32, verset 35 jusqu'au verset 4 du chapitre suivant. Et le texte est projeté sous vos yeux. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, « Je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Éthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. » Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple aux cou raides. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Je ne monterai pas au milieu de toi. C'est cette parole la plus effrayante de tout l'Exode. Sans doute elle ne provoque pas le même émoi parmi nous ce matin. Alors il vaut la peine qu'on s'y arrête un peu. Dieu dit, à cause de ton cœur idolâtre, je ne monterai pas avec toi. Je ne demeurerai pas au milieu de toi. C'est la catastrophe, ça. Rappelez-vous ce qu'on médite depuis le début de notre série, le Dieu qui veut demeurer au milieu de nous, qui désire ardemment cela. Et là, c'est coup d'arrêt total. On a réfléchi sur cette œuvre de recréation que Dieu a voulu à travers son peuple, à travers ce nouveau culte qu'il était en train d'instruire pour qu'on puisse l'organiser, ce tabernacle, ce nouveau lieu de communion avec Dieu. Et tout cela semble avorté. Pourquoi ? Parce que, étrangement, c'est comme si Dieu était tout aussi mal à l'aise que nous avec les 3000 morts du chapitre précédent. Il est en train de nous dire « Je ne peux pas monter avec toi. » Parce que Exode 32 n'est pas qu'un accident. Dieu sait qu'à cause de notre péché, Israël se détournera à nouveau de ses commandements. D'une manière ou d'une autre, il y aura d'autres Exode 32. Alors Dieu dit en quelque sorte, ça ne va pas être possible. Je ne vais pas vous décimer à chaque fois que vous vous détournez de moi. Alors, je n'irai pas avec toi. On est à un tournant là, un tournant de l'histoire du salut. Notez bien la proposition. Dieu n'est pas en train de dire qu'il revient sur son engagement. Il continue d'annoncer qu'il va donner à son peuple le pays promis. C'est son ange qui va précéder le peuple pour permettre que le descendant d'Abraham, d'Isaac, puisse entrer sur la terre promise. C'est pas mal comme proposition, ça, non ? La bénédiction sans l'obligation des exigences de Dieu. La bénédiction de Dieu sans Dieu. Ça ne vous rappelle rien ? La création de Dieu sans Dieu. C'est ce qui se passe depuis la chute. Un pays qui vit les valeurs chrétiennes de Dieu sans Dieu. C'est notre monde occidental post-chrétien où on est heureux de pouvoir vivre des évolutions dans la morale, dans un certain nombre de choses, même si on part dans un autre sens actuellement. Mais sans la crainte de Dieu, sans ce péché ou cette moralité qui nous opprime, qui nous oppresse. Mais toujours donc avec cette prétention qu'on va pouvoir définir par nous-mêmes, du coup, ce qui est bien et ce qui est mal dans ce domaine. La bénédiction de Dieu sans Dieu. Ça n'est pas que les non-chrétiens qui sont concernés. Je crois que nous aussi, parfois, on serait prêts à signer pour ça le pardon, le salut, la protection, un conjoint, un emploi, la santé, sans les exigences, sans les changements que demande la présence de Dieu dans notre vie. Le problème, c'est qu'on est bien plus intéressé par la bénédiction que par la sainteté. Mais l'heure est grave, parce que si la proposition de Dieu qu'il a mise sur la table en Exode 33 va à son terme, il n'y a plus aucun espoir pour l'humanité. La vie pourra continuer d'apporter quelques plaisirs passagers, mais sans aucun horizon à long terme d'une vie entière et pleine dans la présence de Dieu. Heureusement, un homme a bien compris cela et il n'a pas laissé ses paroles accomplir leur funeste projet. Je vous propose de sauter quelques versets et de continuer notre lecture à partir du verset 12 où on entend la réaction de Moïse. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ah, pardon, je n'ai pas fait passer les versets. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre ? L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit en substance, « Tu m'as demandé de guider ce peuple, mais moi je ne peux pas le faire tout seul. » J'ai besoin de savoir qui va m'accompagner, sous-entendu, comment tu vas m'accompagner. Moïse supplie et plaide pour la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu répond ? Je t'accompagnerai, toi. Mais toi seul. Plus le peuple donc, comme c'était prévu au départ. Seulement Moïse, l'homme dont le cœur semble disposé, lui, à se laisser transformer par Dieu. C'est vraiment un moment émouvant qu'on a là sous les yeux. La proposition de la part de Dieu est assez étonnante. Hein ? Il nous propose en quelque sorte de fonder une nouvelle religion, le moïsisme. Dieu traite avec Moïse et Moïse se débrouille avec le peuple. Il y a beaucoup de religions hein, qui sont fondées là-dessus. Mais Moïse, lui, il n'est pas du tout intéressé par la carrière de gourou. Pour lui, la bénédiction n'est d'aucune utilité si elle n'est pas accompagnée par la présence de Dieu. Magnifique. Je crois qu'on comprend quand même cette idée, non ? Pour nous-mêmes. On déteste l'idée qu'on se serve de nous. Qu'on nous aide pour ce qu'on peut apporter aux autres. Un réseau. Des biens matériels, des relations. Et puis, d'ailleurs, plus on a d'argent, de pouvoir, plus c'est difficile de savoir comment les gens nous voient, s'ils nous aiment vraiment pour qui on est. Alors, vous imaginez si vous avez, comme Dieu, des ressources infinies. Bon, Dieu, il n'a pas besoin de savoir hein, où en est notre cœur. Il le sait parfaitement. Mais voilà le défi pour nous. Aimer Dieu pour qui il est et non pour ce qu'il peut nous apporter. Rechercher Dieu de tout notre cœur, parce que le fait de connaître, de le connaître, est la bénédiction, ce à quoi nous aspirons le plus. Peut-être que dans un premier temps, ce sera par la foi. J'ai été touché cette semaine par une parole du psalmiste, « Mon cœur dit de ta part, mon cœur dit de ta part à toi, Dieu, cherche ma face. » Alors Dieu, je cherche ta face. Peut-être on n'en est que là ce matin. Mais voilà le souhait de Dieu pour nous, que nous cherchions Dieu pour qui il est, parce que Dieu nous dit que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et c'est la préoccupation de Moïse dans ce passage. Son pire cauchemar à lui, sa pire crainte, de devoir être tout seul, sans la présence de Dieu, parmi le peuple, avec ce peuple. Est-ce aussi ma plus grande crainte ? Comme j'ai dit en introduction, je pense qu'on a, quand on lit ces passages dans la Bible qui nous confrontent à autant de morts, ça nous perturbe. Pourtant, si je comprends bien le message de la Bible, il y a pire que les 3000 morts. Parce qu'il y a pire que la mort. Il y a l'absence de Dieu. L'absence de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Il y a pire qu'Exode 32. Il y a Exode 33. Si Dieu abandonne son peuple au mont Sinaï, c'est comme s'il abandonnait sa mission pour le monde. C'est comme si le plan de salut qui conduit jusqu'à Jésus-Christ s'arrête. Alors soyons rassurés, hein. Dieu n'a jamais eu l'intention d'abandonner son plan de salut. On le voit à tant de reprises dans la Bible, comme si tout d'un coup il nous montrait une bifurcation. Au déluge, tiens, le moyen de régler le problème du péché, c'est d'enlever toute l'humanité. Non, c'est pas comme ça que je vais le régler. Et là, c'est un peu la même chose. Tiens, puisque vous n'arrivez pas à vivre avec moi sans désobéir, la solution, bah, c'est que je ne vienne pas. Mais non, c'est pas comme ça que Dieu a prévu de sauver l'humanité. Aussi comme Moïse, continuons de chercher la présence de Dieu pour nous-mêmes et de la demander aussi pour ceux qui nous entourent, plus particulièrement ceux qui ne le connaissent pas. Car comme le dit ce chant que nous aimons, chantons régulièrement, ta bonté vaut mieux que la vie. Exode 32 et 33 nous place donc devant un dilemme. Tim Chester le relève de manière très lucide. Nous ne pouvons vivre ni avec Dieu, ni sans lui. C'est quand même un problème, non ? On ne peut vivre ni avec Dieu, ni sans lui. Dieu désire ardemment habiter au milieu de son peuple, mais à cause de son péché, il ne le peut pas. Avec Dieu présent, c'est la catastrophe d'Exode 32. Avec Dieu absent, c'est le sinistre projet d'Exode 33. Et ce dilemme nous permet en quelque sorte de faire le point sur tout le livre de l'Exode. Il nous servira de conclusion et nous ouvrira sur la suite. Alors écoutons comment se poursuit cet étonnant épisode à partir du verset 18. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » En quelque sorte, le dilemme continue. Même Moïse, l'homme prêt à se laisser transformer par Dieu, qui ne désire qu'une seule chose, que Dieu soit présent au milieu de son peuple, ne peut pas voir Dieu. Ne peut pas voir Dieu et vivre. Permets-moi de contempler ta gloire. Impossible de voir l'Éternel et vivre. Impossible de voir sa gloire face à face. Alors c'est intéressant parce que Dieu va tout de même proposer quelque chose à Moïse qui est en lien avec sa gloire. Non pas la voir, mais l'entendre. C'est ainsi que Moïse pourra contempler la gloire de Dieu. Pour qu'il puisse voir sa gloire, il ne va pas se montrer, il va proclamer son nom. Il va décrire son caractère. Ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à ça dans l'Exode. La parole a la primauté sur l'image. Dieu, pour faire connaître sa gloire, ne se montre pas, mais il dit qui il est. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et un peu plus loin, lorsqu'il passa, il s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. » Dieu révèle sa gloire en révélant son nom. Vous rappelez l'épisode que nous avions vu tout au début du livre de l'Exode, le buisson ardent, où Dieu révèle « Je suis celui qui suis ». Et maintenant, on en sait un peu plus sur son nom. Le même Dieu du buisson ardent, éternel, ontologique, « Je suis celui qui suis », nous en dit un peu plus sur son caractère. Il est miséricordieux. Il veut faire grâce. Il veut pardonner. Avec le livre de l'Exode, le nom de l'Éternel s'éclaircit. Il nous révèle plus profondément son caractère. Mais dans le même temps, le dilemme s'épaissit. Comment Dieu peut-il à la fois vouloir pardonner le péché, mais ne pas laisser le coupable impuni? Comment peut-il être miséricordieux envers sa créature, mais juste aussi avec elle, quand elle s'enfonce dans la rébellion? Dilemme encore plus opaque quand on considère la relation de Moïse avec l'Éternel. On vient de lire, l'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre ». Mais pourtant, d'un autre côté, il nous est dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami ». Moïse ne doit pas regarder le visage de Dieu, mais en même temps, il regarde le visage de Dieu face à face. Comment tout cela est-il possible? Comment tous ces dilemmes peuvent-ils se résoudre? Il faut regarder bien sûr du côté de Noël. Si les Gaulois ne craignaient qu'une seule chose, que le ciel leur tombe sur la tête, à Noël, le ciel nous est tombé sur la tête. Ou plutôt, il nous a rejoints. Il est venu. Il s'est fait chair. La parole a été faite chair. Elle a habité, vous vous rappelez, on avait dit que ce mot habité veut dire elle a tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Dieu qui veut demeurer parmi nous a trouvé le moyen de le faire sans nous exterminer. Il a enveloppé sa gloire dans une présence humaine. Ce qui est encore confus dans le livre de l'Exode, on peut à la fois parler avec Dieu, quand on s'appelle Moïse, mais à la fois on ne peut pas avoir Dieu, parce que sinon on meurt. Devient clair, ou commence à devenir clair avec Noël. Dieu et trois personnes. En Jésus, Dieu a enveloppé sa gloire dans une forme humaine pour nous révéler pleinement et parfaitement Dieu le Père. Et Dieu ne l'a pas fait pour vivre seulement quelques années de bénédiction avec nous. Il l'a fait pour que nous puissions entièrement et pleinement vivre la présence de Dieu en nous. Car Noël a pour but la croix, le lieu où tout dilemme est résolu. À la croix, Dieu peut pardonner le pécheur sans tenir pour autant le coupable pour innocent. Jésus subit la punition pour que nous puissions être pardonnés. Sur la croix, à cause de notre péché, Jésus subit l'absence de Dieu pour que nous puissions vivre éternellement sa présence. Le dilemme d'Exode 32 et 33, les dilemmes pointent sur Noël et sur la croix. Moïse l'avait bien saisi. Nous ne pouvons pas vivre la bénédiction de Dieu sans Dieu lui-même. En Christ désormais, nous n'avons plus à vivre cette bénédiction sans lui. C'est lui qui est la bénédiction. Le livre de l'Exode, Noël, toute la Bible, démontre donc que Dieu désire ardemment habiter au milieu de nous. Si nous acceptons le Christ, si nous acceptons qu'il a pris nos péchés sur la croix, nous avons l'assurance qu'il demeure en nous. Pourtant, un dilemme, une tension demeure. Et nous, est-ce que nous désirons ardemment sa présence en nous? On l'a chanté tout à l'heure, hein? Une chose que je désire ardemment. Dieu nous laisse devant la responsabilité de ce choix. Alors, il y a bien sûr le choix initial, hein? Si vous ne l'avez pas encore fait. Oui, c'est la proposition de Dieu. Il désire ardemment être dans votre vie. Il suffit pour cela de laisser Jésus-Christ entrer dans votre cœur. Mais c'est un choix à renouveler tout au long de notre marche chrétienne. J'ai participé à une rencontre de pasteurs cette semaine où j'ai vraiment été remis en question par l'intervention d'un des orateurs qui pointait du doigt notre incohérence entre ce que nous savons être bon pour nous Est-ce que nous pratiquons réellement? Oui, on sait que passer du temps avec Dieu, c'est bon pour nous. Mais quelle est la réalité de notre temps de qualité avec lui? Alors en l'entendant, je me disais, bah, bien sûr, je sais tout cela. Mais vous avez bien noté, le problème n'est pas de savoir. Le problème, c'est la cohérence entre le fait de le savoir et de le faire. Est-ce que nous saisissons où se situe l'enjeu? Contrairement à l'Exode, depuis la croix, l'enjeu n'est pas de savoir si Dieu est au milieu de nous ou pas. On a cette affirmation pleine et entière, il est présent parmi nous. Dieu a tout accompli pour que ce soit le cas. Contrairement à nos craintes exprimées en début de ce message, l'enjeu n'est pas de savoir si Dieu agit avec puissance. Si Dieu est présent, sa divinité agit avec puissance. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il n'y a pas de dysfonctionnement. Dieu est présent. Sa puissance est présente. Alors, il est où l'enjeu? L'enjeu, il est dans notre conscience de sa présence. Est-ce que nous réalisons qu'il est bien plus présent que nous le pensons? C'est ce qui s'est passé pour moi cette semaine, où j'ai pu à nouveau décider d'arracher du temps de plus grande qualité avec Dieu, arrêter de se contenter d'une prière ici, d'une lecture par là. Voilà quelques pistes qui m'animent actuellement et qui peuvent peut-être vous aider si vous cherchez vous aussi à retrouver ce temps de qualité. Est-ce que vous essayez de mémoriser la parole de Dieu? Oh, c'est difficile. Mais je vous assure, ça demande du temps. Mais pas de souci, là vous allez prendre plus que 2 minutes si vous essayez de la mémoriser. Est-ce que, comme on l'a entendu tout à l'heure, comme Zacharie, vous prenez un temps pour que Dieu puisse aussi parler de silence? Là aussi, ça demande de prendre du temps. Et si vous voulez faire ça, ça demande de veiller sur votre hygiène de vie. Pouvoir laisser du temps à ce que tout cela puisse arriver. C'est justement ce que nous méditons en cette période de Noël, et peut-être qu'une autre piste, c'est les méditations qui vous seront envoyées dans les prochaines semaines, qui sont aussi des occasions de vous arrêter dans votre journée et de méditer. Est-ce que je désire ardemment la présence de Dieu dans ma vie? Au moment de refermer le livre de l'Exode, jetons un dernier coup d'œil sur les versets qui le concluent. Rappelons-nous ce qui s'est passé. Moïse a craint qu'à cause du veau d'or, Dieu renonce à venir habiter parmi son peuple. Il a demandé à voir la gloire de Dieu. Il a demandé à ce que Dieu lui-même accompagne ce peuple. Écoutez comment le Dieu qui désire ardemment habiter au milieu de son peuple a répondu à cette prière. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, et donc aussi longtemps que dura la vie de Moïse, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était 2 jours sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Dieu veut demeurer au milieu de son peuple. Et nous, désirons-nous ardemment qu'il demeure au milieu de nous.